Je rencontre finalement Bernie Goldblatt. Bonjour.
Bonjour.
Et on a eu un karma difficile, nous aussi, parce qu'on n'arrivait pas à se rencontrer à la Berlinale, à Namur, au Cinéma d'Afrique de Lausanne. Finalement, ça se fait à Carouge, dans un endroit convivial, pour parler de Walaï. C'est un premier long métrage de fiction après de nombreux documentaires. Comment est né ce projet ?
Ce projet est né il y a un peu longtemps, je peux dire il y a bientôt 8 ans. En fait, on m'a remis un scénario un peu comme on remet un bébé entre vos mains. Mm-hmm. C'était un scénario écrit par David Boucher au départ, et cela il y a déjà vraiment dans les années 2006-2007, qui dans un premier temps, il y a un réalisateur guinéen qui a essayé de faire ce film. Le Gaëté Fofana, il n'a pas réussi, et ce dernier donc m'a remis ce scénario un petit peu comme ça, genre vas-y, jette un coup d'œil. Et moi, je l'ai immédiatement aimé, et j'ai commencé à rêver à faire un film à partir de ce scénario là. Mais donc, je l'ai réécrit, et j'ai passé 7 ans à le réécrire, à le préparer, et à m'entourer de bonnes personnes qu'il fallait pour le tourner déjà, et ensuite le sortir.
Des bonnes personnes au niveau technique comme au niveau des acteurs ?
Oui, les deux, ouais, parce que faire un film, on ne le fait jamais seul. On vous voit toujours seul dans les festivals, tout ça, mais il y a tellement de gens autour, et c'est clair que si tu n'es pas bien entouré à tous les niveaux, ben, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc c'est clair, c'est des bons techniciens, mais c'est plus que ça. C'est devenu aussi des amis, et c'est des gens avec qui il y a eu énormément de choses qui sont passées. Et c'est très intense, faire un film, c'est voilà, 7 ans. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas un petit boulot. C'est énormément de sacrifices aussi. Et c'est aussi pour quelques-uns d'entre eux des nouveaux amis aussi. Et quasiment. Ouais.
Et est-ce qu'au niveau du projet initial, il y a eu des changements au niveau de l'écriture ?
Il y a eu beaucoup de changements, ouais. En fait, le projet à la base était beaucoup plus écrit comme une comédie déjà, dans le style et dans le genre. Il n'était pas vraiment comme on le voit aujourd'hui, qui est beaucoup plus. J'ai essayé de tempérer la comédie, et bien sûr il y en a, mais je voulais que ce soit aussi un film assez sobre finalement. Je sais pas, on peut appeler ça film d'auteur ou j'en sais pas. D'autres disent inspiration documentaire et tout, mais bon, moi je sais pas, j'ai juste fait le film que je voulais faire. De toute façon, quand on passe 7 ans avec un projet, il évolue, parce qu'on évolue soi-même, on grandit, on apprend, on fait d'autres choses, et tout ça a une influence sur l'œuvre, évidente. Ensuite, les personnes aussi qui nous accompagnent influencent positivement l'œuvre, et c'est clair qu'on a aussi eu à tourner dans des conditions assez dures, avec un budget restreint, et ça aussi, ça oblige par moments d'aller vers l'essentiel. Et quand on te dit, voilà, il n'y a pas plus de jours de tournage que ça, et que c'est déjà hyper serré, il faut faire des choix, il faut vraiment réfléchir en amont. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées lors du tournage qui n'étaient pas écrites, et énormément de choses qui ont été modifiées à la mise en scène, en dialogue. Il y a même eu des séquences qui ont été rajoutées comme ça, la dernière minute, la veille, par nécessité ou par inspiration. Et ensuite, ben, jusqu'au montage, évidemment, le montage aussi, c'est encore une autre réécriture. J'aime toujours paraphrer Truffaut, qui dit qu'on tourne contre le scénario et on monte contre le tournage, et c'est vrai. Mmh. Et le montage, en tout cas, c'est une nouvelle écriture. Et du coup, au montage aussi, on a énormément modifié des choses. Évidemment, on a jeté des choses à la poubelle, mais on a aussi changé des dialogues, on a travaillé beaucoup on a fait des retakes, on a retourné 4 mois après le tournage. Quelques séquences, on a aussi changé des dialogues, on a fait de la post-synchro beaucoup, notamment avec le jeune comédien, avec les deux comédiens principaux, je peux dire. Donc voilà, tant qu'il n'était pas terminé, puis que vous l'avez vu à Berlin, les choses se modifiaient un petit peu. Et après, il y a eu évidemment aussi la musique, Vincent Segal, qui a aussi ajouté beaucoup, qui a été enregistré un mois avant Berlin. Donc vraiment, c'était à la dernière minute, et lui aussi, il a ajouté une sacrée touche quand même, je peux dire, à la sensibilité du film. Donc voilà, c'est work in progress, tant qu'on ne le décide pas, que ce soit le final cut, quoi.
Et alors justement, on parle du jeune comédien, on suit le chemin initiatique de Adi, préadolescent, 13 ans, qui est rebelle, qui, enfin, son père qui l'élève seul n'arrive plus à en faire quoi que ce soit. Et il convient avec son frère qui est resté au pays, au Burkina Faso, de peut-être l'envoyer là-bas. Adi pense partir pour des vacances, mais en fait, il est convenu qu'il soit un peu redressé, qu'il soit rappelé à l'ordre et qu'il réapprenne le respect.
En fait, c'est un coup monté, on peut dire. C'est-à-dire que c'est un piège. C'est-à-dire le petit, il n'a jamais été en Afrique, il ne connaît rien de l'Afrique, il fantasme sur le bled.
Et donc, il ne parle même pas la langue.
Non, il ne parle pas la langue, justement. Parce que s'il avait parlé la langue, je n'aurais pas pu faire ce film. En tout cas, pas de cette manière, évidemment. Et la langue, elle a une grande importance dans le film, dans ma vie aussi, parce que je suis aussi moi-même baigné dans beaucoup de langues, mes parents aussi, enfin bref. Et donc, il lui fait croire qu'il part en vacances. Et le petit part naïvement... avec son fantasme et tout. Puis en fait, très rapidement, dès le lendemain matin, dans la cour familiale, il va comprendre qu'il y a un problème. Et donc...
Il y a un traquenard, en tout cas.
Il y a un traquenard. Voilà, en fait, c'est une histoire qui arrive très, très souvent, en fait. Hein. Il y a plein de jeunes maghrébins ou africains qui vivent cette situation. Des fois, ça finit bien, ça finit mal.
Pour les filles, des fois, ça finit mal.
Oui, alors là, pour les filles, avec l'excision et tout, ça, c'est encore un autre débat.
Ou le mariage forcé.
Grave, ou le mariage forcé, évidemment, c'est pas pareil. Ouais, c'est aussi cette idée, parce que c'est vrai, il est orphelin de mère, donc il vit seul avec son papa, et son papa, il n'a plus d'emprise, il n'arrive plus à s'occuper de ce jeune de 13 ans qui n'est ni un enfant ni un adulte, il n'est même pas vraiment un ado, il est dans cette phase préadolescente où il mue presque, donc c'est vraiment une étape très, très particulière quand même de...
Une recherche d'identité
aussi, ouais, aussi, mais en fait sans le savoir. C'est, il va comprendre ça en y allant, parce que c'est avec toutes ces épreuves qu'il aura à surmonter, et les gens qu'il aura à rencontrer, qu'il va comprendre beaucoup plus de choses sur lui-même, sur ses origines, et il va se reconnecter en fait à sa partie africaine manquante, qu'il ignorait et dont il avait absolument aucune idée. Et ça, c'est surtout avec la rencontre avec la grand-mère qui représente un peu l'ADN africain, l'arbre généalogique, les origines. Et le père, évidemment, s'il avait transmis ne serait-ce que la langue, et ben dans la langue, on a tout. Hein. On a la mentalité, l'histoire, la géographie, la cuisine,
le
comportement. On a tout dans une langue. On peut faire 50 ans, mais on garde la langue. Alors que quand on n'a pas la langue, on est totalement étranger, c'est clair. Et c'est aussi quelque part une manière de raconter aussi ce drame, je pense aussi, de beaucoup d'enfants, d'immigrés qui n'ont pas eu la chance d'apprendre la langue de leurs parents. Parce que des fois aussi, leurs parents, ils pensent que ouais, pour mieux s'intégrer, on va que parler français, on va que parler allemand, on va que parler italien. C'est une énorme erreur. Parce que plus on connaît de langue, plus on est intelligent, en gros. Hein. Plus on est prêt à affronter ce monde bizarre et dur. Donc, et plus on connaît de langue, plus on est ouvert, plus on est tolérant.
Le métissage, j'allais dire, c'est une ouverture d'esprit.
Absolument. C'est un film sur le métissage. C'est un film sur le métissage culturel, sur le métissage des origines, aussi sur les rencontres intergénérationnelles. C'est aussi ça, une des thématiques du film. C'est aussi le rapport entre les personnes âgées et les jeunes aussi, qui aujourd'hui ici des fois manque quand même. Et du coup, quand il arrive, la transmission, c'est ça. C'est vraiment la transmission qui est rompue, quoi. Et même en Afrique, on aperçoit que de plus en plus ça arrive.
Et là, on s'attend pas justement à ce qu'il soit le plus proche de la grand-mère, avec qui il ne partage pas la langue, puisqu'il parle français, elle parle voilà.
Le c'est Duba. Ça.
Et en plus la différence d'âge, elle a 83 ans, il en a 13, et c'est avec elle qui va être le plus proche.
Oui, c'est ça, c'est un petit peu la rencontre improbable comme ça. Et alors que justement l'oncle l'envoie là-bas pour commencer son chemin initiatique, pour connaître la dureté de l'environnement et ses mystères, en fait c'est en arrivant là que la grand-mère, elle, de toute façon, elle l'attend, elle est contente de le voir, elle le juge pas, parce que c'est la seule personne donc qui ne le juge pas. Donc elle le prend, elle l'aime, elle l'embrasse, et en plus elle le fait dormir dans la case, dans la maison dans laquelle son papa est né. Donc c'est quelque part comme une renaissance, et elle est très douce. Et en plus, elle se fait traduire par une jolie, ravissante petite fille qui va lui faire la cour. Donc il y a toutes sortes d'éléments comme ça, séducteurs, qui lui tombent sur la figure. Et finalement, il n'a pas d'autre choix que de l'aimer aussi. En plus, il est orphelin de mère. Donc tout d'un coup, il y a ce personnage féminin.
Une tendresse.
Très fort, une tendresse très forte. et qui l'emporte comme une vague, quoi. Et elle, justement, elle est assez étonnante parce que elle est la plus vieille, elle est la moins lettrée, elle est la plus rurale, mais en fait, c'est elle qui va mieux le comprendre. Et finalement, c'est aussi pour dire que bon, c'est pas parce qu'on vient d'ici ou de là-bas qu'on a telle ou telle mentalité. Finalement, c'est l'humanité qui nous habite, qui est importante, et que finalement, c'est au fin fond de ce bled perdu d'Afrique de l'Ouest que le petit va se reconnecter et qui va s'ouvrir sur lui-même et sur son passé, sur son avenir.
Et puis lui, il croit qu'il vient de la civilisation, puisqu'il vit à Paris. Voilà, il veut voir le bled, mais il prend les gens pour des blédards. Puis il va découvrir que non, en fait, tout est accessible. Il y a deux économies là-bas. Et que la dernière tablette, l'ordinateur, l'iPhone, ils sont tous disponibles.
Voilà, exactement. En fait, tout d'un coup, c'est lui qui devient le blédard. En fait, il y a un repas là, chez Jean, et les gens mangent du riz, etc. Puis tout d'un coup, Et il s'étonne de voir un gars avec de belles chaussures et puis du coup il se retrouve bête parce que le gars lui dit mais écoute, c'est ici on trouve tout, hein. C'est pas parce que toi tu viens de là-bas que t'es... Hein. Donc tout d'un coup c'est un recentrage.
Système D aussi.
Système D, puis c'est un recentrage aussi. On est toujours le blagard de quelqu'un, quoi. Et c'est vrai que lui, bon, il connaît que sa cité lyonnaise. Il n'a pas eu à se confronter à d'autres personnes et il n'a jamais vraiment voyagé et tout, donc il est un peu ignorant. Voilà, donc il se retrouve un peu face à son ignorance et aussi à sa naïveté et à sa jeunesse, parce qu'il est jeune quand même.
Donc, peut-être l'arrogance de croire qu'en Europe c'est mieux.
Bien sûr, ça c'est clair, évidemment. Mais bon, vite fait, je pense que le personnage de Jean va lui faire oublier ça, parce que Jean, il est joué par Ibrahim Koma, il est jeune, il n'a pas 30 ans, il est moderne, mais en même temps, il est aussi très lié à son oncle, qui est son fils adoptif. Et puis, donc, il est un petit peu, il a le cul entre deux chaises. Mais Jean, il est quand même, il a de la classe, quoi. Donc, le petit, il peut pas vraiment. Voilà, il sent que c'est son seul allié aussi. Donc, voilà.
Et pour revenir à ce qui est insolite dans ce film, c'est que d'habitude, on voit souvent les histoires, il y en a eu beaucoup à Black Movie d'ailleurs, de migrants qui quittent l'Afrique pour des raisons économiques ou même de politiques, de guerre, pour aller en Europe ou pour aller aux États-Unis. Et là, c'est l'inverse. Lui fait un chemin initiatique pour retrouver ses racines en Afrique.
Absolument. J'ai toujours trouvé intéressant cette dialectique, ce chemin, quoi. Où, tout d'un coup, voilà, t'as ce petit blanc, comme on peut l'appeler, qui part se perdre, qui donc il fait le chemin inverse, qui part vers le sud pour se perdre, pour mieux se retrouver, pour mieux se connaître. Et donc je trouvais vraiment intéressant comme proposition aussi, parce que c'est clair que voilà, avec tout, c'est vrai, ces vagues de migration qui sont toujours dans un sens, je pense que c'est important aussi de raconter que l'autre sens est également possible, peut-être pour d'autres raisons, mais que c'est vrai que c'est important et que il y a des millions de jeunes d'origines diverses qui vivent en Occident, mais qui sont complètement déconnectés avec leurs origines, et c'est vraiment dommage, parce que finalement ils restent étrangers ici et ils connaissent pas là-bas, donc finalement ils sont doux et ils ne le savent même pas eux-mêmes.
Il y a une perte de référence et une perte d'accrochage aussi, de point d'ancrage.
Complètement, et du coup après ça peut aussi expliquer toutes sortes de problèmes qu'on voit, quoi, autour de nous. Après, moi j'ai pas voulu faire un film voilà, pamphlet qui explique les problèmes de la société, pas du tout. Moi, je voulais faire un film doux, un film qui fasse réfléchir, un film, voilà, on passe un bon moment et on en ressort apaisé peut-être et avec aussi une réflexion qui continue. Voilà.
Il y a aussi un regard à la fois anthropologique, sociologique. Ça les fait beaucoup rire, ceux du pays là, qui disent « Ah ben non, tu vas devenir un homme, ça passe par l'excision par exemple,
c'est
circoncision. » Et lui, c'est un coup de semence, quoi, s'il ne s'y attend pas. Et il imagine que, oui, c'est juste, il est là en villégiature, donc il n'imagine pas tout ce que ça implique comme rite initiatique.
Voilà, déjà, il y a déjà le problème de l'argent. C'est-à-dire que dès le départ, on lui fait comprendre que lui, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Parce qu'ici, on travaille avec 2 euros par jour. Et toi, tu as volé 500 euros n'importe comment pour t'acheter des chaussures et des conneries de tablettes. Donc, dès le départ, il y a aussi cette volonté de la part de la famille, de l'oncle, etc., de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour qu'ils pigent que voilà, que l'argent, c'est pas, ça a une valeur. Et d'ailleurs, l'oncle refuse l'argent de la vente des parce qu'à un moment donné, il se dit, je vais vendre mes affaires, comme ça, je vais récupérer mon passeport chez l'oncle, et puis je pourrai rentrer chez moi en France. Et l'oncle, quand il s'aperçoit que c'est de l'argent qui ne lui appartient pas, parce qu'il a vendu des choses qui ne lui appartiennent pas, il en veut pas. Et de toute façon, l'oncle veut pas d'argent. L'oncle veut le faire, il veut le faire grandir. Ensuite, oui, la circoncision, c'est clair que c'est un petit peu la menace qui pèse sur sa tête, un peu l'épée de Damoclès du début jusqu'à quasiment la fin du film. Et en plus, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une menace sur son intégrité aussi, physique. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui donne au récit un peu sa tension, voilà, dramatique, quoi. Et qui aussi, à un moment donné, nous sert à dénouer le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'oncle, quand il tombe à l'eau et qu'il sauve l'oncle, ben, l'oncle aussi, il en prend plein la gueule et il s'aperçoit que le petit, il n'est peut-être pas si mauvais que ça. S'il a pris le courage d'aller plonger dans le lac aux crocodiles pour sauver sa vie, peut-être qu'il a déjà grandi quand même suffisamment. Donc
il a compris certaines valeurs, en tout cas.
Voilà, et puis du coup, il se dit, bon, la circoncision, peut-être que ce n'était pas forcément nécessaire. Bon, c'est sûr qu'habituellement, on circoncide des enfants beaucoup plus jeunes. Donc, en général, c'est quand ils sont bébés. Ça arrive qu'on circoncise des enfants de son âge, mais c'est vraiment plutôt rare. Ça dépend des ethnies, des villages et tout. Mais c'est vrai qu'aussi la circoncision, c'est quelque chose qui est là depuis des milliers d'années, et dans plein de pays, la plupart des pays du monde, je pense, et qui fait partie, ben voilà, des choses normales, quoi.
Bah, qui se partage aussi avec l'autre religion monothéiste, le judaïsme.
Exactement, exactement. Et les animistes, et les musulmans, et les juifs, et d'ailleurs aussi. Bon, voilà, après, c'est clair que la circoncision, dans ce cas-là, elle sert beaucoup, elle sert la narration, elle sert l'enjeu dramatique. Et à la fin, il ne se fait pas circoncire. Mais de toute façon, ce n'était pas le problème. Le vrai souci du film, il n'est pas là. Le vrai souci, c'est qu'est-ce que ce voyage, qu'est-ce que ces vacances ont eu comme impact sur lui. Et c'est pour ça que j'ai retourné la fin du film, donc la lettre au début du film qui raconte, où on le voit en train d'écrire sa lettre à sa copine, c'est la vraie fin du film, mais qu'on retrouve au début.
Et en même temps, c'est le but du voyage, c'était de retrouver le respect, ne serait-ce que de son père, respect aussi des adultes qui l'entourent, et respect de ce que ces adultes lui procurent.
Oui, bon, tout ça, c'est des conséquences indirectes, évidemment. Moi, je pense qu'à partir du moment où le petit, il a vécu ce qu'il a vécu, Il a rencontré cette grand-mère qu'il ne reverra certainement pas, parce que quand elle lui dit au revoir, on sent que c'est la dernière fois qu'elle le verra, même s'il reviendra au village plus tard. Il est tombé amoureux d'une petite chouchou, et ça, c'est sûr que ça, c'est clair que c'est top. Après, avec Jean, avec ses cousins, et même la réconciliation avec l'oncle, il va rentrer à Lyon tellement la tête pleine de choses que c'est sûr et certain qu'il verra son père de manière totalement différente, évidemment. Tout d'un coup, il voit son père autrement, il a vu là où il est né, il a vu tous ces gens-là, et peut-être même qu'il sera moins déconnecté que son propre père, parce que son père, ça fait des années qu'il n'est plus revenu. La grand-mère même s'en plaint, il lui envoie de l'argent et tout quand il peut, mais il vient plus. Peut-être ça fait 20 ans qu'il n'est pas venu. Donc quelque part, il va avoir une place aussi assez forte vis-à-vis de cette famille. Et le père aussi, forcément, va le voir différemment. Donc, c'est sûr, il y aura des impacts évidents.
Et pour parler des acteurs, parce qu'on a l'impression que certains acteurs ils sont du cru, quoi, ils sont de la région. Comment s'est déroulé déjà le casting? Et puis, parler aussi du jeune protagoniste, parce que c'est lui qui porte le film aussi.
Ouais, en fait, c'était un casting très mélangé. Il y a des acteurs professionnels et des acteurs amateurs qui sont complètement mélangés. Alors pour le premier des rôles, c'est Makan Nathan Diarra, un jeune parisien franco-malien de 13 ans qu'on a rencontré dans la rue suite à un casting sauvage. Donc c'était sa première expérience au cinéma, il n'avait jamais joué, et c'est sûr que là il fait une performance puissante, quoi. Et c'est vrai qu'aussi il est de toutes les séquences, donc il fallait vraiment pas qu'on se gourre. On a vraiment cherché pendant pas mal de temps. On a vu de nombreux, presque 85 enfants de son âge, métis. Et lui, dès que je l'ai rencontré, j'ai été sûr que c'était lui. J'ai même pas hésité. J'ai cessé de chercher après. Et j'ai bloqué sur lui parce que c'est presque comme s'il m'avait casté quasiment. Il y a eu ce truc dans les deux sens. Ensuite, le rôle de Ibrahim Koma, donc qui joue Jean, son cousin. Lui, il est professionnel, il est franco-malien, il vit à Paris. Et lui, il joue depuis l'âge de 9 ans. C'était important aussi que j'ai quelqu'un qui soit professionnel pour ce rôle-là, parce que c'est quand même le tandem du film, les deux. Et d'avoir deux amateurs pour ce tandem, c'était très risqué. Donc j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui soit quand même assez à l'aise. Et ça a très très bien marché. Ils sont devenus très proches, même les deux. Ils se revoient toujours. Par contre,
avec lui, il fallait travailler sur la langue.
Ah oui, avec lui, il fallait. Lui, dans la vraie vie, il parle comme Macan. Donc il fallait vraiment, travailler sur la musicalité des intonations, sur la langue, sur le vocabulaire, sur la manière de chanter le français, et même de lui apprendre le doula, parce que lui parle une autre langue qui est le soninké, qui n'est pas le doula. Donc il fallait qu'il apprenne cette langue, en tout cas les répliques, quoi. Ce qu'on a fait, et j'étais super content de travailler avec Ibrahim, parce que c'est vraiment, il est magnifique comme personne et comme comédien. Ensuite, l'oncle, lui, c'est un comédien de théâtre malien et de cinéma aussi. Et lui, je lui avais déjà dit depuis 2011, quasiment 2012, qu'il allait avoir ce rôle. Donc il savait, il était beaucoup écrit pour lui, hein, ce rôle-là. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres, la copine, elle est amateur. Je l'ai rencontrée suite à un casting au Burkina.
La grand-mère,
elle, c'est une comédienne professionnelle, mais à la retraite. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué. Mais elle a joué dans des grands films qui étaient à Cannes dans les années 90.
Du Burkina.
Ouais, du Burkina. Elle s'appelle Joséphine Caboret. Elle a véritablement 83 ans. C'est une vraie grand-mère et tout. Elle est incroyable. Et elle connaît aussi les secrets d'un plateau, donc ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. C'est pas évident, et évidemment, elle sait lire, elle parle très bien français.
Contrairement à son personnage, et puis pour mettre en confiance le jeune aussi, peut-être.
Ouais. Ah, c'était super, le contact qu'ils ont eu, les deux, entre Macan et Joséphine, la vieille et le jeune, ils ont été vraiment super. Et la dernière séquence, quand elle lui dit au revoir, elle a pleuré. On la voit pas parce qu'elle est de dos, mais après. En fait, c'est quasiment la moitié du plateau qui pleurait, en gros. C'était vraiment fort, cette séquence-là. Alors que, c'était vraiment une ambiance qui a fait pleurer les gens, plus qu'une parole. C'est vrai que c'était un truc hyper fort. En plus, c'était une fin de journée. C'était une fin de tournage pour Joséphine aussi. Donc, on avait passé quasiment les 10 jours de tournage. On était fatigués. Et il y avait un truc très fort ce jour-là. Et c'est ce jour-là, d'ailleurs, que j'ai décidé de dédier le film à mes parents qui sont décédés pendant la période de production de ce film. Donc il y a une dédicace tout au début, c'est pour eux, c'est en mémoire à eux. Donc voilà, c'est un peu la séquence un peu qui évoque la mort, mais qui évoque aussi plein de
évoque aussi l'espérance,
un passage exactement, comme un passage.
Et Bernie, en fait, c'est un papa polonais, si je ne me trompe pas, une maman suisse, mais en fait vous êtes né à Stockholm. Est-ce qu'ils étaient toujours en Suède, vos parents? Ils étaient toujours en Suède.
Quand?
Justement au moment de leur départ.
Non. En fait, ils étaient ici en Suisse. Mon papa est décédé en 2012, ma maman en 2014. Et donc on était venu de Suède à la fin des années 80.
Mais la Suède, ça reste une partie importante de votre identité.
Forcément, ouais, parce que j'ai vécu 18 ans et que je parle le suédois comme le français et que je l'ai appris dans la rue et que je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé, quoi, mais forcément j'ai un truc suédois, même si j'ai une tête de turc.
Et d'ailleurs, un passeport burkinabé,
ouais. D'ailleurs, le film passe actuellement au Göteborg Film Festival en Suède. Ouais. Et c'est vrai que c'est un pays j'ai vraiment envie d'y retourner aussi. Ouais.
Et la Pologne ?
Pologne, j'ai été avec mon père. J'étais avec mon père une fois, et j'étais une fois au festival de Cracovie aussi avec mon précédent film. Je me sens un peu polonais, forcément, mais mon père a eu une vie très très mouvementée, mais il était très très attaché à son pays. Ouais.
Comme l'histoire de la Pologne, c'est un pays qui a toujours été envahi du part et d'autre, par les Allemands, par les Russes.
Ouais, On peut rajouter encore l'ingrédient juif. Mmh. Et là, on a encore un truc encore plus tumultueux, quoi.
Bah, les juifs étaient très nombreux avant la guerre. Malheureusement, sont très... le pourcentage est minime maintenant.
Absolument. Ouais.
Et alors, pour revenir justement au métissage, au brassage d'identité, le Burkina, c'est arrivé comment ? C'était, il me semble que c'était un voyage entre potes, jeunes. Et puis, ça a été une découverte, une révélation ?
Ouais, c'était il y a longtemps, c'était l'aventure, quoi. Et c'est vrai que, après, c'est un peu long à raconter, c'est un peu ancien, mais c'est vrai que ça s'est passé un petit peu de manière assez graduelle, mais petit à petit, ce pays m'a adopté, je peux dire, quelque part, parce que je l'ai aimé, j'ai passé beaucoup de temps, Voilà, j'ai fini par me marier là-bas et j'ai fait mes premiers, tous mes films là-bas en fait, en gros. Donc j'y suis énormément attaché et voilà, donc j'ai cette chance là aussi d'avoir cette influence aussi, linguistique aussi, culturelle du Burkina. Et
linguistique, c'est-à-dire que non, vous parlez couramment.
Le Dioula, ouais. Je me débrouille bien en Dioula, en tout cas. Et je comprends aussi un petit peu les autres langues. Mais bref, le Dioula surtout. Et bah forcément, après tout ce temps, et je me considère aussi de là-bas, quoi. Mm-hmm. Et de partout, en fait.
Et à propos de là-bas, justement, on en avait parlé sur JMAC pendant le Festival de Namur. Il y a cette mission de redonner une existence cinéma Gimby, justement, et Ian Gervais, qu'on avait rencontré pendant Namur, disait ce projet est très important parce que ça va avoir un impact sur les autres salles dans les autres pays africains où malheureusement on connaît la situation des salles et on sait qu'il y a aussi ce marché parallèle qui permet aux gens de voir les films par les DVD piratés et ça pourrait redonner vraiment une existence concrète au cinéma, à l'importance du 7e art et à la qualité de voir un film sur grand écran.
Ouais, c'est clair, le projet d'une Cine Gimby, c'est un projet qui nous est tous très très cher. En gros, c'est faire renaître sur les ruines d'une ancienne salle une nouvelle salle de cinéma dans une ville d'un million d'habitants qui n'a plus de salle depuis 2005. Et donc, c'est créé.
La ville, c'est
Bobo Dioulasso, la ville où on a. La ville de coproduction de Walaï d'ailleurs. Il faut quand même souligner que Walaï est une coproduction franco-burkinabé, donc c'est important de le dire. Ça veut dire qu'il y a des capitaux aussi du Burkina qui sont partis et qui reviendront aussi grâce à ce film. Donc à Bobo Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina, il n'y a plus d'écran depuis 2005. Et il y a eu cette initiative qui est née en 2012 par un rêve, par une frustration en fait. Parce que dans une ville d'un million d'habitants, il n'y a pas d'écran. Alors l'idée, c'était de se dire, bon, on va pas juste construire une salle de cinéma, on va voir des films, et puis non, on va essayer de créer un lieu, un centre culturel, un lieu de sociabilité, un lieu de divertissement, un lieu de formation, d'éducation à l'image, bien sûr centré sur le cinéma, mais avec aussi une ouverture, avec un bar, un restaurant, etc. Donc on s'est mis à rêver ça, et aujourd'hui on est en train de terminer la petite salle qui fait 174 places, qui n'est pas si petite que ça, le bar, le restaurant, les bureaux, parce qu'elle comportera deux salles, il y aura une grande aussi de 324 places. Et c'est une lutte énorme quand même depuis 5 ans, en parcourant le monde, de Cannes à Toronto, en passant par Genève, Namur, Durban, enfin bref, on parcourt le monde pour essayer de lever des fonds, sensibiliser les partenaires, trouver des soutiens, agrandir le réseau de soutien. Et on a levé plus d'un million d'euros comme ça déjà. Et on n'est pas encore au bout. Donc on va lancer une grande campagne de crowdfunding en avril-mai. Et là, vous serez prévenus, tous les amis, les médias. On va réveiller toutes ces cellules dormantes un petit peu de part et d'autre, en francophonie aussi, mais aussi ailleurs, dans les pays anglophones et arabophones, pour essayer de faire connaître ce projet au-delà de ce réseau et pour pouvoir aussi lever les dernières sommes qu'il faudra pour ouvrir la salle. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est le Ciné Gimby constitue un espoir énorme pour toute la région et toute la sous-région. Il est emblématique. Aujourd'hui, si vous tapez sur Google Bobo Dioulasso, la troisième image, c'est la maquette du Ciné Gimby qui sort. Mm-hmm. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le nom même est lié au pays, à la ville, à l'Afrique. Et c'est aussi un nom porteur d'espoir, un nom... avec ce projet qui est hyper novateur aussi, qui est jeune, qui est urbain, qui est frais. Et donc, il y a pas mal d'initiatives ailleurs qui s'inspirent de notre démarche. Et on est invité un peu partout, pas partout, on est invité pour essayer d'échanger, de partager notre expérience. Et voilà, le Ciné Guimby, il faut des salles. De toute façon, on peut aujourd'hui être dans un contexte où coexistent une salle de cinéma ou des salles de cinéma avec les pirates, avec les bouquets télé, avec les vidéoclubs. Il n'y a pas de problème parce que chaque utilisation, chaque médium est différent l'un de l'autre. Tu peux très bien aller sortir d'une salle de cinéma et aller acheter un DVD pirate au bord de la rue. De toute façon, on ne regarde pas de la même manière un film. Et ça, tout le monde est d'accord de se le dire. Et de toute façon, l'idée du Ciné Guimby, c'est aussi, comme je disais, un lieu de rencontre. Donc, il y aura aussi plein de gens qui n'iront jamais au cinéma, mais qui se retrouveront là-bas. Parce que c'est parce que ça sera un chouette coin pour aller boire un café ou boire une bière, ou aller voir une expo, ou aller écouter une conférence, ou regarder un match de football, pourquoi pas. Donc ça sera plus que seulement culturel, c'est aussi un projet de développement, un projet social, économique, un projet même environnemental, quoi.
Et puis je pense qu'il y a quand même une visibilité sur la scène internationale, puisque ça se déroule au Burkina Faso, et le Burkina Faso est quand même connu pour le FESPACO.
Oui, le Burkina, c'est quand même la capitale, Ouaga, c'est la capitale du cinéma africain, avec le grand festival qui a lieu tous les deux ans, aux années impaires, qui s'appelle le FESPACO. Et d'ailleurs, le Ciné Guimby sera le siège du FESPACO à Bobo, qui traditionnellement, après le FESPACO, tous les films primés partent à Bobo pour une petite semaine, 5 jours, où les gens de Bobo ont la chance de voir les films. Mais depuis qu'il n'y a plus de salle, c'est très compliqué, cet événement-là. Et du coup, évidemment, c'est pour ça que le FESPACO nous soutient depuis le départ, et qu'on se sert aussi du FESPACO pour vraiment faire un maximum de bruit. Et on est plus que des amis, on est des collègues, et on va forcément travailler ensemble, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est vrai que maintenant le Ciné Guimby est très connu, mais il faut qu'on arrive encore à faire
quelques mécènes.
Ouais, il faut quelques mécènes, quelques gros organismes, et puis on va y arriver.
Il manque peu.
Il manque, mais c'est difficile à dire, parce que nous on a scindé le projet en deux. Donc on a la petite salle, le bar, restaurant et les bureaux, et on a la grande salle et la salle multifonction qui sera au-dessus de la grande salle. Donc on a scindé en deux, avec la possibilité d'ouvrir la phase 1 qui est petite salle, bar, restaurant et bureau. Donc là, il manque, il faut qu'on trouve encore, 600 000 euros. Et après, pour le reste, on verra. Vous voyez, donc on en est un petit peu là. Tous les jours ça évolue, ça bouge, donc je me méfie des chiffres. J'aime pas dire un chiffre parce qu'après on va retrouver le chiffre ancien dans un nouvel article. Enfin bref, toujours est-il que on est très présent sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, partout on peut nous trouver facilement. On peut acheter des sièges, et surtout il faut rester connecté en avril-mai, parce que on va entendre parler du projet sur les réseaux sociaux, dans les journaux et dans les festivals aussi, parce que les festivals aussi, on a un réseau de festivals amis du projet, et Black Movie, il est tout dans la première ligne de ce réseau de festivals amis du Ciné Guimby, parce que les festivals nous servent de porte-voix, nous servent de lieu où on peut passer. Vous avez vu le spot du Guimby qui passe avant les films ici. On a eu à avoir un stand ici, on a fait des rencontres, on a fait... Donc, on a le festival de Namur aussi.
C'est un tremplin d'informations.
Ouais. Le festival de Namur aussi, évidemment. C'est notre antenne en Belgique, c'est notre entrée en Belgique, c'est Namur, notre partenaire, grâce auquel après on a eu des soutiens publics de la Belgique. Et après, je ne peux pas tous les citer, il y a tellement de festivals. Mais bref, pour dire que le Black Movie, en tout cas, on est vraiment main dans la main. Et d'ailleurs, le Black Movie s'est engagé aussi depuis longtemps. Lorsque nous créerons notre propre festival, il y aura une équipe du Black Movie qui viendra former l'équipe locale et tout.
Plein de projets. Alors, à part ces projets très concrets au niveau logistique, des projets côté cinéma, Bernie ?
Je suis en train d'écrire avec ma co-auteur qui s'appelle Morgane Jvelaki. On écrit à deux Une fiction, long métrage, mais je peux pas vous en parler, c'est un peu trop tôt.
On est vraiment. Et on est superstitieux.
Voilà, et on est au départ quoi.
Ouais, on n'a pas de gris-gris avec nous. Hein. Merci Bernie Goldblatt.
Merci beaucoup.